Actu SF, les podcasts.
Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi dans le monde mystérieux des moustiques, un monde mystérieux et aussi inquiétant pour nous, et on va voir en fait pourquoi. Alors, ça s'intitule « Les petites vampires », mais donc on voit très bien en fait ce qui se passe ici. Vous voyez en fait une jolie femelle Aedes aegypti qui est bien gorgée ici. Donc effectivement, elles se nourrissent de sang, ces petites bêtes. Alors là, je peux remettre le son, mais je pense que vous avez déjà entendu le son du moustique. Je peux le remettre encore une fois. Donc, vous avez tous entendu déjà ce son très désagréable qui gâche nos nuits, nos soirées, quand on veut passer du temps dehors et que voilà, on veut être tranquille. Eh bien, il y a ces petites bêtes-là qui vont vraiment nous ennuyer. Et en fait, elles ne sont pas là depuis hier, elles sont là depuis avant-hier, puisqu'en fait, ils sont apparus, ces moustiques, il y a 190 millions d'années. Donc, vous voyez que ça représente un temps vraiment très, très important. Et en fait, ils ont réussi, grâce à leur grande adaptabilité, à coloniser en fait pratiquement tous les endroits sur Terre. On les retrouve pratiquement partout, à part sur les calottes polaires, où là, on ne les voit pas. Mais sinon, ailleurs, il y a des moustiques, des milliards de moustiques. Donc, ça fait vraiment énormément de petites bêtes très nuisibles pour nous. Donc, elles peuvent vivre, en fait, ces petites bêtes, dans la plupart des environnements naturels. Donc ça, OK, naturel. Mais malheureusement, l'homme a créé des environnements qui leur sont excessivement favorables. C'est-à-dire que nous, en fait, par nos actions, eh bien, on a fait que les moustiques sont à notre contact. Donc il va falloir essayer en fait justement de diminuer cette pression de par notre comportement, en tout cas de changer notre comportement, et on le verra à la fin comment faire. Alors l'espèce humaine évidemment s'est également multipliée, s'est installée partout, et bien forcément il y a un choc énorme entre les moustiques et les hommes. Et vraiment ça, effectivement, on va voir que c'est vraiment non négligeable pour la santé humaine. Voilà. Alors, des milliards de moustiques. Donc, ça représente vraiment un nombre très, très élevé de petites bêtes. Alors, seulement donc leur nombre est déjà impressionnant, mais malheureusement, ils sont susceptibles de transporter en fait des armes biologiques qui sont très malheureusement très dangereuses pour nous. Certaines sont létales, d'autres vont être à l'origine en fait de maladies qui vont effectivement nous atteindre et nous gêner dans notre vie. Alors, juste pour vous montrer quelque chose d'intéressant en fait, ici vous voyez en fait c'est les espèces qui sont dangereuses pour l'homme. Et vous voyez en fait que les moustiques sont capables de tuer 725 000 personnes par an, alors que les hommes eux-mêmes sont capables de tuer leurs propres congénères, 475 000. Et si on compare en fait aux requins, il n'y a que 10 morts par an en fait par des requins. Donc vous voyez que les moustiques c'est vraiment au sommet en fait de la chaîne des prédateurs. Ce sont vraiment des prédateurs. Les déprédateurs, non seulement par leur action eux-mêmes, mais également par le fait justement qu'ils sont porteurs de ces fameuses armes biologiques. Je vous gêne peut-être, non ? Ça ira ? Alors, de façon intéressante et surtout de façon très surprenante, en fait, les moustiques, ils ont tué en fait plus de personnes que toutes les guerres dans l'histoire. Et on va estimer de façon, en extrapolant de façon statistique, à peu près 52 milliards de personnes sur les 108 milliards ayant vécu depuis 200 000 ans. Donc vous voyez que c'est vraiment énorme. Et donc ils ont laissé leur empreinte dans notre histoire, en interférence avec un monde qui a été malheureusement aussi modifié par l'homme, de par l'agriculture, l'élevage, le changement climatique, la déforestation. Donc tout ça fait que malheureusement, les deux phénomènes en corrélation vont faire que effectivement, ça nous touche énormément. Alors, Les moustiques sont des insectes et ils appartiennent en fait à l'embranchement des arthropodes. Je vais peut-être me déplacer comme ça pour ne pas vous gêner. Voilà. Alors, les arthropodes, alors, tout simplement, ça c'est l'évolution des espèces, joli arbre. Et là, vous voyez que ce sont les arthropodes. Et là, c'est nous, on est à ce niveau-là. Donc, les arthropodes se sont détachés il y a très longtemps, en fait, de l'évolution, évidemment. Ils sont beaucoup plus anciens que nous. Et parmi les arthropodes, en fait, il y a deux sous-embranchements qui vont être très importants pour nous en termes de santé publique. Ce sont les arachnides, avec les araignées, les scorpions et les tiques. Et puis, il y a aussi les insectes, avec donc les moustiques, mais aussi tout un tas d'autres diptères et d'autres insectes qui sont malheureusement dangereux pour nous par le fait qu'ils sont capables de transmettre beaucoup de pathogènes différents. Alors ces arthropodes, ils ont cette caractéristique d'avoir de très nombreuses espèces. 80% des espèces vivantes sur Terre, ce sont des arthropodes. Ça représente plus d'un million d'espèces différentes. Donc nous, par rapport à ça, on est vraiment tout petits, hein, c'est vraiment très très peu. Ils sont donc apparus il y a 190 millions d'années, ça veut dire qu'en fait, ils étaient contemporains des dinosaures. Donc les dinosaures ont connu les moustiques. Et c'était des moustiques qui étaient identiques à ceux d'aujourd'hui. Ce n'étaient pas des grands moustiques, c'était des petits moustiques comme ceux d'aujourd'hui. Et on verra qu'on en a retrouvé fossilisés. Donc l'histoire de Jurassic Park, a un fondement. Donc si on retrouve en fait justement les aires géologiques, ils sont apparus en fait à l'ère secondaire, au niveau d'un moment qu'on appelle le Dévonien. Alors voilà les fameux moustiques fossilisés donc, qu'on a retrouvés. Donc on a effectivement retrouvé un moustique gorgé, comme dans Jurassic Park, mais sauf qu'il n'était pas contemporain des dinosaures, celui-là, c'est le seul qu'on a trouvé gorgé. C'est un genre Culicetta, donc un moustique un peu ancien, mais qui ressemble donc à nos culex d'aujourd'hui. Et on en a retrouvé un, par contre, qui lui était vraiment contemporain des dinosaures, qui est donc un ancien moustique qu'on appelle Priscoculex burmanicus, qui était très proche des anophèles et qui était susceptible, même à l'époque, de transmettre aux dinosaures des parasites qui ressemblent aux parasites de Plasmodium, donc du paludisme actuel. Donc, c'est-à-dire que les dinosaures, ils ont été aussi soumis, malheureusement, à la transmission d'un certain nombre de parasites par ces moustiques anciens. Alors, les moustiques sont des diptères, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils vont avoir deux ailes, une paire d'ailes qui est bien visible, un appareil buccal qui est positionné en avant. Donc, en fait, les insectes, ils ont trois segments. On voit qu'à l'avant, c'est la tête, au milieu, c'est le thorax, et au bout, c'est l'abdomen. Et donc, au niveau de la tête, on a un appareil buccal de type suceur. Ils se nourrissent d'un certain nombre d'aliments différents, comme le nectar, la sève, mais également de sang. Et seules les femelles sont capables de se nourrir de sang. Et on les appelle des hématophages qui se nourrissent donc de sang. Alors, on peut savoir très rapidement si on en a affaire à un moustique mâle, d'un moustique femelle, en regardant en fait la tête. Et vous, si vous voyez à l'avant de la tête, enfin, si vous avez le temps de voir, parce que ce n'est pas toujours évident quand il y a quelque chose qui vous tourne autour, de vérifier si c'est un mâle ou une femelle, eh bien, les mâles, en fait, ils ont des antennes qu'on appelle des antennes plumeuses. Donc, en fait, ce qu'on voit à l'avant de la tête, ce sont les antennes. Donc, si vous avez le temps de regarder un peu ce qui vous tourne autour et si vous voyez des antennes plumeuses, ce n'est pas la peine de le tuer parce qu'il a rien, il ne va rien vous faire, la pauvre petite bête. Par contre, si vous ne voyez rien, c'est un petit peu plus grande, avec un magnifique appareil suceur-piqueur, là, vous pouvez agir, donc vous pouvez tuer. Alors, la métamorphose est complète, on va voir le cycle du moustique tout à l'heure sur une autre diapo. Et les larves, en fait, sont aquatiques, et donc on a à la fois donc, une partie du cycle qui est aquatique et une autre partie qui est donc aérienne. Alors, la morphologie générale d'un moustique, elle est relativement simple, en fait. Son appareil circulatoire n'est pas clos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vaisseau sanguin dans un moustique. Il y a, en fait, une cavité générale dans laquelle va baigner tous les organes du moustique, qu'on appelle l'hémocèle, dans laquelle vont circuler, en fait, des cellules sanguines qui ressemblent, en fait, à nos hématies, qu'on appelle des hémocytes. Donc, en fait, cet hémolymphe, qui est donc le liquide nourricier du moustique, il va être pompé par un cœur, qui ressemble à un organe qui ressemble à un cœur, qui va permettre justement le pompage de cet hémolymphe. Ensuite, un système nerveux qui est assez particulier parce qu'il est composé, en fait, déjà dans la tête, il y a un petit ganglion cérébral et puis il y a toute une chaîne de ganglions nerveux qui va être en dessous, en fait, de l'appareil digestif qui va permettre donc aux moustiques de bien fonctionner. Les moustiques respirent par des poumons qu'on appelle des tranchées et ils ont aussi des trachées pardon et ils ont en fait aussi un système urinaire, enfin plutôt des reins qui sont des reins donc assez primitifs qu'on appelle les tubules de Malpighi. Donc voilà. Donc il y a à peu près 3000 espèces de moustiques. Alors toutes ne sont pas susceptibles de porter des agents pathogènes, heureusement pour nous. Ils appartiennent tous, ces moustiques, à la famille des Culicidae, ici. Et on va, donc, dans cette famille des Culicidae, avoir des sous-familles anophélinées, pour lesquelles on va trouver des anophèles, que l'on voit ici. Alors, l'anophèle, elle a une posture tout à fait typique par rapport à la peau. Quand elle est sur votre peau, on la reconnaît très bien parce qu'elle fait un angle à peu près de 45 degrés avec la peau. Donc, c'est une posture qui la permet vraiment de la reconnaître à tous les coups. Par contre, les autres... Elles sont parallèles, en fait. Elles se posent directement parallèles, en fait, à la peau. Que ce soit Aedes albopictus, le moustique tigre, dont on parle énormément en ce moment, parce qu'il est malheureusement en train d'envahir toute la France. Aedes aegypti, qui est un moustique qui est plus tropical. Et un moustique, là, c'est une autre espèce, mais Culex. Culex pipien, c'est celui qu'on a partout, en fait, en France, qui est un moustique très commun, qui pique uniquement la nuit. Alors voilà comment évolue en fait le moustique dans sa petite vie. Il a une vie à peu près, en fait, au stade adulte, c'est à peu près un mois. Il faut compter un mois après de vie d'un moustique, sachant que les mâles vivent en général un peu moins longtemps que les femelles. Mais le rôle des mâles, c'est un rôle très très bref. C'est un rôle de copulation, évidemment, avec la femelle. Et la copulation ne se fait qu'une seule fois pour la femelle. Et grâce, en fait, à une seule copulation, elle va garder, en fait, des spermatozoïdes dans une spermathèque qu'elle va utiliser toute sa vie. Donc, c'est-à-dire que les œufs vont être issus, en fait, des spermatozoïdes d'un seul mâle pour une femelle. Alors, une fois que cette copulation a lieu, la femelle va pouvoir faire un repas de sang. Donc ça, c'est automatique, en fait. C'est quelque chose qu'elle a acquis, en fait, c'est inné. Et elle va donc faire des repas de sang tous les 3-4 jours à peu près. Ce repas de sang, il est très important parce que ça va lui permettre de pondre ses œufs. Sans repas de sang, elle ne pond pas. Mais sans repas de sang, elle peut vivre. Elle peut vivre un mois sur des repas de sucre. Mais donc le sang, ça va lui servir uniquement à pondre. Donc une fois qu'elle a pondu ses petits œufs, alors soit elle les pond en dehors de l'eau, à la surface de l'eau, ça, ce sont les Aedes, comme Aedes albopictus, qui ont des œufs qui vont être résistants à la dessiccation, donc ils vont être en dehors de l'eau. Et dès que le niveau de l'eau va monter, eh bien, ces œufs vont se retrouver au contact de l'eau et vont éclore. Pour les anophèles et les culex, les œufs doivent être directement pondus dans l'eau. C'est nécessaire parce que les œufs se dessèchent et ne vont pas vivre. Donc une fois dans l'eau, ces œufs vont éclore, vont donner naissance donc à des larves, 4 stades larvaires. Vous voyez qu'elles évoluent, ces stades, ce sont des larves qui sont de plus en plus grandes par des mues successives. Et une fois qu'en fait la larve de quatrième stade est formée, elle va vivre quelques temps et va se transformer ensuite en nymphe. Alors ces petites larves là, elles se nourrissent en fait de déchets organiques qui sont dans l'eau. Ensuite, quand ce sont des nymphes, donc vous voyez, c'est une sorte de petite virgule toute sympathique, elles ne se nourrissent pas, elles vont juste en fait aller à la surface pour respirer, et c'est tout. Elles attendent la métamorphose pour donner naissance donc aux adultes, qui vont rester un peu sur l'eau au début, puis après qui vont s'envoler, et puis le cycle recommence en fait comme ça. Alors, cette partie-là, ça dure à peu près entre une semaine et 15 jours, ça dépend de la température. Plus la température est élevée, plus le temps entre l'œuf et l'adulte est court, et ça peut mettre quelquefois jusqu'à une semaine. Donc vous voyez que toutes les 3 jours, elles pondent, et à chaque fois, il y a énormément d'œufs qui sont pondus, jusqu'à 400 œufs par femelle, donc c'est pas rien. Donc ça veut dire qu'il y a donc des générations énormes, en fait. Plus l'humidité est grande, plus cette possibilité en fait, de se développer est importante. Alors, pour vous montrer en fait que les eux-mêmes en fait sont différents en fonction des espèces et des genres, c'est pour vous montrer qu'en fait les œufs les plus jolis, ce sont ceux des culex, parce qu'ils sont pondus sur l'eau et ça forme des petits radeaux. En fait, ils vont flotter comme des petits radeaux, ils sont liés les uns aux autres. C'est vraiment magnifique, les pontes de culex. Les pontes d'Anopheles sont moins belles, ce sont des œufs individuels, mais qui vont avoir des petits flotteurs qui vont leur permettre en fait, donc, de flotter. Voilà. Et les œufs d'Aedes, qui sont pondus sur des surfaces asséchées, qui sont les uns à côté des autres, donc ça fait vraiment des petits amas noirs. Alors après, donc, une fois que ça s'est développé sous forme de larve, si vous regardez bien, eh bien, si on observe bien une larve, on peut dire en fait de quel genre, de quelle espèce elle appartient. Les Anopheles, ce sont des larves qui sont comment dire, très longues en fait, et qui sont toujours parallèles à l'eau en fait. Elles ont des petits siphons respiratoires qui sont répartis sur tout leur corps, et pour pouvoir donc respirer, elles sont vraiment parallèles à la surface de l'eau. Alors que les autres, elles ont un siphon respiratoire qui sont localisés donc au niveau de l'extrémité du corps, et donc quand les larves sont dans l'eau, elles sont donc perpendiculaires à l'eau. Donc la tête en bas, le siphon en haut, et donc on peut très vite dire en fait est-ce que c'est de larves d'Anopheles ou des larves de culex, et les larves d'Aedes, elles ont un petit siphon respiratoire qui est un peu différent des larves de culex. Donc on peut très facilement observer des différences. Après, au stade de nymphe, c'est un petit peu plus difficile parce qu'elles se ressemblent un peu toutes, hein, c'est vrai. Peut-être une petite différence ici avec les Anopheles. Et puis après, donc, les postures, et puis surtout la livrée, hein, qui est très différente. Hein. Les Aedes qui sont les plus jolies, hein, parce qu'elles sont très colorées, elles ont des beaux dessins sur les thorax. J'en parle avec amour parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Et j'y tiens. Bon, je sais qu'elles sont nuisantes, mais quand même. Alors que celles-ci, je les trouve un peu moins jolies. Elles sont un peu plus banales. Voilà. Et l'Anopheles avec sa petite posture bizarre. Alors, le tube digestif d'une femelle moustique, vous allez retrouver des termes qui ressemblent à la fois aux oiseaux et à notre tube digestif, en fait. Alors, à l'entrée, donc, on a un pharynx. Bon. Quelque chose qui nous ressemble, un oesophage, ça nous ressemble. Puis d'un seul coup, on a un jabot comme ont les oiseaux. Alors, on a un diverticule ici qui est très important pour les moustiques, qui va en fait être rempli de liquide sucré. En fait, elles vont faire une sorte de stockage de liquide sucré ici. Et une fois que c'est plein, ben après, elles vont être tranquilles pendant un petit moment, puisqu'elles vont se resservir de ça pour pouvoir en fait, petit à petit, en fait, se nourrir. Alors, après le jabot, on a un estomac, donc comme nous. Ensuite, suivi donc du pylore, comme nous. Et puis après, d'un tube d'une ampoule rectale. Vous voyez, ça ressemble énormément. Hein. Et les glandes salivaires sont à l'avant, évidemment, comme nous. Voilà. Donc, ça nous ressemble beaucoup. C'est très intéressant d'étudier les estomacs des moustiques parce que c'est à partir de l'estomac qu'en général se fait le transfert, la pénétration de l'agent pathogène qui est présent dans le repas sanguin à l'intérieur du moustique. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'une fois que le repas de sang est fait, il y a une sorte de membrane qui va entourer le repas de sang, qui s'appelle en fait la membrane péritrophique, c'est comme une cuticule et qui va protéger les cellules de l'estomac du moustique qui sont très sensibles en fait, puisqu'à l'intérieur il va y avoir des enzymes digestives qui vont permettre la digestion du sang. Voilà, donc maintenant qu'on a vu un peu à quoi ça ressemble la moustique, on va voir pourquoi ça nous préoccupe en fait les moustiques. Alors le contact entre l'homme et le moustique, c'est un contact en fait qui va dépendre de beaucoup de facteurs. Alors, il y a des moustiques qui ont une activité diurne, c'est-à-dire qu'en fait, on va les retrouver dans la journée. Et c'est le cas des Aedes. Je ne sais pas si vous avez été en contact avec Aedes albopictus. En fin de journée, vers 5 heures, elle décide qu'elle a envie de manger. Et donc, vous êtes gêné, en fait, à partir de 5 heures jusqu'à 23 heures. Puis après, le lendemain matin, jusqu'à 7-8 heures, elle est de nouveau là. Donc, celle-ci, pour s'en débarrasser, pour éviter, il faut des répulsifs. Sinon, en fait, vous vous faites piquer. Alors que d'autres moustiques, comme les Anopheles et les culex, sont des moustiques qui piquent la nuit. Ça veut dire que si je mets une moustiquaire, je peux me protéger. Alors que les autres, je n'arrive pas à me protéger. Donc voilà, ça c'est déjà un point très important pour savoir comment faire pour se protéger en fait, des moustiques. Savoir si ce sont des moustiques qui piquent le jour ou ceux qui vont piquer la nuit. Après, il y a l'endroit où ces moustiques aiment piquer, parce que certains aiment piquer dans les maisons. C'est le cas des Anopheles, Anopheles gambier, qui est redoutable parce qu'elle transmet le paludisme en Afrique. Eh bien, c'est un insecte qui va vivre dans les maisons. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir chez nous nos moustiques. Des moustiques, les femelles, elles se reposent. Elles viennent piquer quelqu'un la nuit. Ensuite, elles vont se reposer. Elles vont peut-être sortir un petit peu pour aller pondre les œufs dans un endroit où il y a un peu d'eau. Puis après, elles vont revenir dans la maison, etc. Donc ça, c'est très important de savoir où le moustique va pouvoir piquer. D'autres, ce qu'on appelle les endophages. Elles piquent dans les maisons. Les autres, ce sont des exophages, c'est-à-dire qu'elles vont piquer partout, en fait. Quand vous sortez, elles vont piquer. Donc, elles ne vont pas rentrer dans les maisons, ou si, quelquefois, si le besoin a lieu, si elles ont besoin de piquer, elles peuvent rentrer, mais en tout cas, elles ne vont pas y rester. Elles vont devoir ressortir. Et évidemment, le rôle de la ponte est très important dans le contact, parce que nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'avoir éventuellement des citernes, des petits pots où on met de l'eau dedans. Et bien là, malheureusement, ça fait un endroit où les moustiques adorent se retrouver, puisque là, ils peuvent pondre. Donc, vous avez dans vos maisons, à côté des maisons, de quoi pondre, dans la maison, de quoi piquer. Donc, tout va très bien pour les moustiques. Alors, il y a aussi autre chose qu'il faut considérer. Il y a certains moustiques qui sont très vicieux parce que ce sont des anthropophiles stricts. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont piquer uniquement l'homme. Les autres, les animaux, ne les intéressent pas. C'est l'homme qui va piquer. Et c'est le cas, par exemple, d'Aedes aegypti et d'Anopheles gambier. Ce sont vraiment des anthropophiles. C'est de là qui sont d'ailleurs très dangereux pour l'homme parce qu'ils sont capables, en fait, justement, de nous transmettre tout ce qu'elles sont capables de transporter, en fait. Alors, les autres, ce sont des zoophiles, par exemple. Ce sont des moustiques qui ne vont pas piquer l'homme, en fait, ou qui piqueront l'homme parce que nous, on aura malheureusement été en contact avec eux parce qu'on a fait des bêtises. Et on verra les bêtises qu'on fait à la fin de la diapo. Alors, il y a des moustiques qui, par contre, sont un peu plus opportunistes. Ils voient l'homme, ils sont très contents, ils vont nous piquer. Ou bien, quand ils voient un animal, s'ils ont faim, ils vont piquer. Et puis voilà, donc en fait, ce sont ceux qui sont les plus adaptables. Et Culex, Anopheles, non pas Anopheles, Aedes albopictus, c'est un peu opportuniste, justement. Il aime bien les animaux, il aime bien l'homme, donc il se débrouille. Culex aussi, un peu les deux. Et aussi, il y a le site d'évolution des insectes qui est intéressant, parce qu'en fait, les différentes espèces qui sont relativement nombreuses, elles ne jouent pas toutes le même rôle. Certaines sont vraiment inféodées à des cycles sauvages, c'est-à-dire qu'on va les retrouver notamment dans les forêts, en Amazonie, dans la forêt équatoriale. Et celles-ci, elles ne vont pas être forcément en contact avec l'homme, à moins évidemment qu'on aille vers elles. D'autres vont être à l'origine en fait, du passage entre le cycle sauvage et le cycle urbain. Elles vont se retrouver un petit peu entre les deux. Elles vont être par exemple au niveau de plantations. Là, l'homme va venir dans la plantation parce qu'il va récolter des fruits. Donc ça, ce seront des insectes, des moustiques qui vont se retrouver là et qui vont faire le pont entre le cycle sauvage dans lequel le pathogène évolue sans pour cela que l'homme soit atteint et le cycle urbain dans lequel, justement, là, cette fois-ci, l'homme est très touché. Et il y a les moustiques qui assurent uniquement les cycles urbains. Donc voilà. Donc chacun a son rôle dans l'histoire et malheureusement l'homme vient perturber cette histoire parce que voilà, il fait en fait des déplacements de population. Donc vous voyez que les bonnes idées, c'était de déforester par exemple ici en Amazonie malheureusement ou bien dans le bassin du Congo. Eh bien là, c'est une mine qui a été construite en Asie du Sud-Est en plein milieu de la forêt. Donc là, ça veut dire que mon petit moustique qui était en train d'assurer son cycle sauvage, qui n'avait jamais vu un homme de sa vie et dont on se moquait bien de ce qu'il pouvait transmettre, eh bien là, malheureusement, là, on ne se moque plus du tout de ce qu'il va transmettre. Et là, ça fait des émergences. Alors soit on connaît déjà la maladie, et là, donc, si on connaît la maladie, on a peut-être déjà les moyens de lutter contre cette maladie, soit on ne la connaît pas, et là, donc, va émerger une nouvelle maladie qu'il va falloir étudier, et donc il va falloir comprendre. Mais on se rend bien compte que nous sommes malheureusement responsables de cette histoire. Hein. Ce n'est pas le moustique qui est venu nous voir, c'est nous qui sommes allés au contact du moustique. Alors, comment ça va se faire qu'un moustique va nous rechercher? Pourquoi? Donc en fait, il a une machinerie sensorielle qui est très très développée, bien sûr, parce que son unique but, c'est de pouvoir, en tout cas pour les femelles, pouvoir se gorger. Donc en fait, il y a la recherche, il y a trois étapes qui sont très importantes en fait de discerner. Il y a la recherche qui est basée sur la nécessité, donc la femelle va avoir besoin de pondre des œufs. Donc c'est son cycle, elle a besoin de pondre. Elle va donc s'activer et elle va s'orienter et ensuite elle va être attirée par quelque chose et attirée en fait par des différents stimuli externes qui sont très variés en fait, vous voyez, odeur, vision, chaleur, vapeur d'eau, son. Alors je vous ai fait entendre le moustique au début, simplement parce que bon, nous, on ne va pas attirer des moustiques par nos propres sons. Par contre, ce qui va être attiré par le son, c'est le mâle. Le mâle va être attiré par le son de la femelle. La femelle va battre des ailes avec une certaine fréquence quand elle est prête à pondre. Et donc le mâle sait qu'il a besoin d'être là. Donc il va être attiré par le son de la femelle. Ensuite, il va y avoir la vision, parce que beaucoup de certains de ces moustiques sont des insectes diurnes. Donc en fait, ils vont avoir des yeux qui sont magnifiques. Vous voyez ici, c'est vraiment des yeux qui sont très beaux. Avec donc, ils opèrent avec un angle, vous voyez, de 145 degrés. Ils ont donc des petites lentilles minuscules qui vont transmettre chacune des images au cerveau, lesquelles va les traiter pour avoir une vision totalement panoramique. Donc la détection va dépendre souvent des contrastes, d'intensité de couleurs. Et il y a certains moustiques qui sont attirés par des couleurs. Donc il faut se méfier, parce que si on sait qu'il y a des couleurs qui les attirent, il faut peut-être mieux pas les porter. Aedes aegypti va être attiré par des couleurs comme le rouge, l'orange, le noir, le bleu cyan. Les moustiques du genre Culex sont attirés par le noir, le marron. Donc là, vous choisissez votre couleur pour essayer de ne pas attirer en fait, ces moustiques. Alors, les moustiques qui sont des nocturnes sont moins attirés, en fait, n'utilisent pas trop leur vision, ils utilisent plus les odeurs. Et les moustiques, en fait, utilisent vraiment beaucoup, en fait, nos odeurs. Les odeurs, elles sont donc utilisées par tous les hématophages, quels qu'ils soient, dont les moustiques. Et on sait que nous, humains, on va en fait envoyer en fait, dans l'atmosphère énormément d'odeurs différentes. Et nos petits moustiques sont super géniaux parce qu'en fait, ils peuvent détecter jusqu'à près de 150 différentes odeurs qui sont issues de notre corps. Donc en fait, ils sont vraiment très très puissants pour ça. Alors, il y a des stimuli qui les attirent énormément. C'est l'acide lactique, l'ammoniac, l'acétone, les composants phénoliques de l'urine et la transpiration. Donc tout ça fait que, voilà, on peut être plus ou moins attractif pour un moustique. Alors, ce qu'on sait maintenant, parce qu'on a beaucoup, vous avez certainement entendu parler du microbiote. Le microbiote cutané, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier maintenant et qu'on prend en compte pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui va attirer en fait un moustique plus d'une peau vers l'autre. Il y a des gens qui malheureusement attirent les moustiques et d'autres qui les attirent moins. Donc, et on essaye de comprendre de façon à pouvoir éventuellement s'en servir pour faire des pièges, pour piéger les moustiques, pour les attirer vers autre chose que vers nous. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de faire ces études-là. Alors, ils sont très attirés aussi par le CO2, le dioxyde de carbone. Ils sont capables de détecter des émissions de CO2 jusqu'à 30 mètres de distance. Et ce que l'on sait, c'est que l'émission de CO2, elle est augmentée par l'exercice. C'est-à-dire que si vous faites du sport, vous allez être beaucoup plus exposé, surtout à l'extérieur, vous allez être beaucoup plus exposé en fait, aux piqûres de moustiques. Les femmes enceintes aussi sont malheureusement beaucoup plus exposées aux piqûres de moustiques, du fait justement qu'elles libèrent beaucoup plus de CO2. La consommation d'alcool, attention, pas trop d'alcool, parce que là, vraiment, la transpiration, l'exercice, un petit coup de bière, alors là, vous êtes parfait pour attirer tous les moustiques de la Terre. C'est génial. Alors, il y a l'ADN aussi qui peut jouer un rôle, du fait que le groupe sanguin aussi est important. Le groupe O est plus attractif que le groupe A. Je ne sais pas qui est du groupe O, là. Ah, quand même beaucoup. Bah, c'est dommage pour vous. Donc, plus attractif que A. La chaleur, les moustiques aiment des températures corporelles élevées. Donc, quand vous avez de la fièvre, notamment, ils peuvent être attirés aussi par votre corps. Donc, tout ça, il faut le savoir, parce que ça peut être quand même important pour essayer de se protéger un peu, quand même. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce qui est encore un petit peu plus sioux, c'est que le pathogène lui-même peut modifier vos odeurs corporelles. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que quand vous allez être infecté par exemple, un pathogène qui est capable d'être transmis par des moustiques, eh bien, quand le stade qui est atteint chez vous est susceptible d'être transmis aux moustiques, eh bien, votre corps va émettre une odeur qui va faire que le moustique va venir vers vous pour essayer de prélever en fait, les formes qui sont importantes pour le parasite, par exemple, pour être infectieuse pour le moustique. Et ça a été vraiment montré que des individus qui sont susceptibles d'être infectés par des stades transmissibles du paludisme sont beaucoup plus attractifs pour les moustiques. Donc, vous voyez, le pathogène, il agit sur nous et il manipule aussi quelque part le moustique. Pareil pour les virus. Virus Zika et la dengue, ils modifient l'odeur des humains qu'ils infectent. Je suis vraiment dans les insectes. L'odeur modifiée, donc il va attirer des moustiques qui vont piquer l'autre, qui boivent le sang infecté, transportent ensuite le virus à la prochaine victime. Vous voyez le cercle vicieux que ça représente, tout ça. Donc ça veut dire qu'en gros, le moustique, en fait, il va être attiré par des individus infectés. Des individus fiévreux, donc ils sont susceptibles d'être malades. Alors pas forcément malades d'une maladie qui est transmissible par un moustique, mais enfin quand même. Et en même temps, des odeurs particulières qui font que vous êtes encore plus attractif pour ceux qui sont donc capables de transporter ces pathogènes. Et aussi, de façon très intéressante, c'est que le moustique, une fois qu'il est infecté, eh bien il va avoir un comportement qui est aberrant. C'est-à-dire qu'un moustique, normalement, ce qu'il essaye de faire, et on verra tout à l'heure, c'est d'essayer d'échapper à ce que vous le tapiez, en fait. Lui, c'est sa vie qu'il veut sauver. Par contre, quand il est infecté par un pathogène, quel qu'il soit, en général, il a un comportement qui va l'exposer. C'est-à-dire qu'il a un comportement, entre guillemets, suicidaire. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à aller piquer plus souvent. C'est-à-dire la femelle, pour faire son repas de sang, plutôt que de piquer une personne, elle va en piquer plusieurs. Donc elle va s'exposer, mais en même temps, elle va transmettre encore mieux. Donc c'est véritablement, encore une fois, une manipulation du pathogène, du moustique par le pathogène. Donc le pathogène va nous manipuler, nous, pour être beaucoup plus infectieux pour le moustique, et il va manipuler le moustique pour qu'il soit encore plus infectieux, qu'il soit susceptible de contaminer encore plus de personnes. Alors, pour pouvoir faire un petit repas de sang, qu'est-ce qu'il faut pour ces petites bêtes ? Il faut des pièces buccales capables de perforer, lacérer la peau. Et il faut une salive aussi, capable de faciliter le repas de sang. Alors, voilà les pièces buccales d'un joli moustique, vous voyez ici. Et vous voyez que là, c'est la partie donc, des pièces buccales qui sont en fait protégées par un étui qu'on appelle le labium. Et vous voyez que les pièces buccales, eh bien, elles sont très complexes. Hein. Ce n'est pas une pièce buccale, c'est des mandibules, des maxilles, et un hypopharynx et un labre. Donc en fait, tout ça, c'est vulnérant, donc ça peut transpercer la peau, et vous voyez en fait comment ça se fait. Donc le petit étui en fait se dégage, et les pièces buccales, toutes ensemble, vont pénétrer à l'intérieur de la peau. Et là, on voit une coupe en fait de ce qu'on appelle le proboscis, c'est l'ensemble des pièces buccales qu'on appelle proboscis, et on voit en fait que ça forme en fait le canal alimentaire et le canal salivaire. Et on voit encore mieux dans cette diapo suivante. Le canal alimentaire, c'est ce qui va permettre au moustique de se gorger de sang. Le canal salivaire, c'est ce qui va lui permettre de saliver et va lui permettre de prendre son repas de sang. Sans salive, il ne peut pas se nourrir, en fait. C'est nécessaire. Simplement pour vous montrer comment c'est une maxille de moustique, vous voyez, en fait, les petites dents. Et ça permet vraiment de pouvoir pénétrer encore mieux à l'intérieur de la peau. Alors, dans un repas de sang, il va y avoir deux phases. Il y a une première phase qu'on appelle le sondage. C'est une phase où le moustique va saliver. Il va saliver parce qu'il a besoin de salive pour pouvoir faire son repas de sang. Une fois qu'il a retrouvé un vaisseau sanguin, il va s'arrêter de saliver et il va s'alimenter dans un vaisseau sanguin. Alors, la salive, elle a le même rôle que notre salive à nous. C'est-à-dire qu'en fait, elle est sécrétée par des glandes salivaires qui, certes, ne ressemblent pas à nos glandes salivaires. Elles sont un peu bizarres, les glandes salivaires de moustiques. Les rôles classiques de la salive, c'est une action digestive. Il y a des enzymes dedans. La lubrification des pièces buccales, qui c'est nécessaire. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de pièces buccales pour un moustique. Et une action antibactérienne. Il y a du lysozyme dans la salive de moustique, comme nous. Dans notre salive, il y a du lysozyme également. Donc voilà, ça nous ressemble. Après, il y a quelque chose qui ne nous ressemble plus du tout, parce qu'on n'est pas des vampires. Donc, en fait, on n'a pas besoin de toutes ces molécules en fait, qui sont importantes dans le repas sanguin. Et enfin, ce qu'on a pu montrer, c'est que cette fameuse salive, eh bien, elle a un rôle important, puisqu'elle augmente encore la transmission des agents pathogènes par le moustique lui-même. Donc elle n'a pas un rôle neutre. Ce n'est pas juste un liquide qui va permettre en fait, de transférer le pathogène des glandes salivaires vers le derme. C'est simple, il y a un autre rôle dû à la présence de molécules très importantes. Et la composition est très complexe parce qu'en fait, plusieurs molécules peuvent jouer le même rôle et plusieurs rôles peuvent être joués par une seule molécule. Donc en fait, c'est compliqué ces salives. Elles sont vraiment très évoluées. Alors, les conditions idéales pour la prise de sang, c'est quoi? Alors, vous avez vu que quand même, le canal alimentaire, il est petit, hein, c'est 40 nanomètres. Donc, si le sang commence à coaguler dans le canal alimentaire, c'est la grosse catastrophe. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de coagulation. Donc, ça veut dire pas d'agrégation plaquettaire, pas de formation de caillots. Ensuite, il faut que le flux sanguin au niveau du site de piqûre soit élevé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de vasoconstriction. Normalement, quand on va piquer un vaisseau sanguin, la première chose qui se passe, c'est un spasme, une vasoconstriction. Donc là, le moustique, ça ne l'intéresse pas du tout hein, d'avoir un vaisseau tout petit dans lequel il ne peut pas se gorger. Donc il faut qu'il y ait une vasodilatation. Et enfin, l'hôte ne doit pas troubler la prise de sang, parce que si le moustique se fait taper tout de suite, ça ne va pas marcher. Donc une absence de réaction locale lors de la piqûre. Donc vous ne sentez rien. En général, on ne sent rien quand on est piqué par un moustique. À moins de le regarder piquer, mais en général, malheureusement, on ne fait pas. Voilà, donc pas, on sait qu'il y a des piqûres de moustiques. En fait, on voit la piqûre de moustique, mais c'est souvent le lendemain, malheureusement. Hein. On n'a pas tout de suite une réaction. Donc le moustique, il est tranquille, il va faire sa prise de sang. Là, je vous montrais des petits fils. Qui vont bouger à l'intérieur de la peau, vous voyez en fait la facilité avec laquelle le proboscis peut évoluer, se courber à partir d'un seul point d'entrée en fait. Et vous voyez certaines des pièces buccales d'ailleurs qui apparaissent, il y a des maxilles qu'on voit apparaître ici. Se passe sous la peau. On voit donc, il va revenir, en fait, j'espère. Là, on le voit, en fait, il essaye de se gorger. Là, il y a une petite flaque de sérum phi qui était à cet endroit-là. Donc, il essaye d'absorber, en fait, ce liquide. Donc vous voyez le proboscis qui rentre à l'intérieur de la peau. Donc il est au niveau du derme. Donc là, il va rechercher un vaisseau sanguin. Donc pendant tout ce temps-là, il va saliver, en fait, le moustique. C'est-à-dire à chaque fois qu'il entre là, il salive. De façon à pouvoir augmenter le diamètre des vaisseaux sanguins et empêcher la coagulation. Et vous allez voir qu'il va aller dans un vaisseau sanguin, très loin, en fait, en général, de son point d'entrée. Alors, c'est ce qui se passe sous votre peau. Hein. Ce n'est pas juste la souris, hein, comme ça. Ça se passe aussi chez vous. Hein. Très sympathique parce qu'en fait il est rentré dans un vaisseau sanguin mais il va pas s'y gorger et il va chercher ailleurs en fait, il va essayer de trouver autre chose, voilà. Donc vous voyez pourquoi vous allez vous gratter un peu après, parce que s'il fait ça comme ça plusieurs fois, c'est pas très agréable. Alors il va pas se gorger au niveau de la flaque de sang, mais il va se gorger plus tard, donc on ne verra pas se gorger ce moustique. Simplement, on verra, si vous regardez un peu mieux dans son canal alimentaire, on verra quelques globules rouges quand il va passer. Donc, il n'est pas très sympathique, celui-là. Il est pas, voilà. Par contre, il salive à fond, lui. Hein. Il est très, très, très intéressant pour transmettre des pathogènes. Vous voyez, si vous regardez bien, en fait, ici, il y a des globules rouges en fait, qui sont passés dans le canal alimentaire. Voilà, ils sont coincés, là. Et ça ne l'intéresse pas, parce qu'il ne va pas pomper plus longtemps. Mais on les voit dedans. Et enfin, le dernier, alors lui, par contre, il a une piqûre magnifique. On dirait du terrain de goût. Regardez comme c'est joli. Regardez l'élégance de cette bête. Voilà. Il cherche un peu, mais il va trouver vite fait. Et attention. Voilà. Regardez comme c'est joli. Une vraie prise de sang, non? C'est pas comme ça dans la réalité, une prise de sang? C'est très très beau. Vraiment, j'ai vu rarement des moustiques faire d'aussi jolis prélèvements de sang. Là, c'est vraiment mon anophèle préféré. Elle est très sympa. Alors, les problèmes posés par les piqûres, il y a des impacts directs en fait des arthropodes. Ce sont les piqûres, les réactions allergiques en fait qu'on voit ici, qui sont légères, mais quelquefois qui peuvent être très importantes. Et j'aimerais simplement attirer votre attention sur le fait qu'il y a quand même des fois des essaims de moustiques, hein, des très très grosses quantités de moustiques, et notamment c'est le cas dans le Grand Nord au moment en fait du printemps, où il y a en fait énormément de moustiques qui vont naître en même temps et qui vont être quelquefois susceptibles en fait de vider de son sang un jeune renne, tellement ils sont nombreux. Donc en fait, ça fait que certaines populations de rennes sont obligées de quitter des endroits où il y a effectivement beaucoup trop de ces moustiques. Donc ces ponctions répétées de sang peuvent être effectivement très gênantes pour les animaux, notamment pour les troupeaux. Et donc il faut vraiment trouver des moyens pour empêcher donc qu'ils soient piqués. Alors ça, c'est l'effet indirect. L'effet indirect, c'est que malheureusement, certains d'entre eux sont capables en fait d'être des vecteurs. Vous avez certainement déjà entendu parler de vecteurs. Ce moustique est un vecteur du paludisme, un vecteur de chikungunya. Donc ça veut dire qu'en gros, ce moustique-là, il va être capable de s'infecter, il va être capable de produire à l'intérieur de son petit organisme un cycle de réplication de la bactérie, du parasite ou du virus. Et ensuite, il va être capable, au bout d'un certain temps, qu'on appelle la période d'incubation extrinsèque, de pouvoir après infecter un nouvel hôte. Donc voilà, un vecteur parfait, c'est ça. Il va s'infecter, ça se réplique à l'intérieur, il est capable de transmettre au bout de quelques jours à une autre personne. Alors, c'est pour vous montrer un peu, pour vous mettre le moral à zéro, vous montrer qu'en fait, Culex, en fait, c'est en vert, il est partout, en fait, tout à fait partout. Anopheles, c'est bleu. Donc vous voyez que des anopheles, il n'y a pas que des anopheles tropicales, on a des anopheles qui vont vraiment très haut. Les Aedes, c'est en rose, donc il y en a un peu partout aussi. Et puis là, c'est un mélange d'Aedes et d'anopheles, enfin voilà. Donc en gros, il y en a partout. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et les moustiques vont transmettre des maladies différentes. Par exemple, le genre Aedes, vous avez entendu parler de chikungunya, mais il y a aussi la dengue, la filariose lymphatique, la fièvre de la vallée du Rift, la fièvre jaune, Zika, j'en oublie certainement. Anopheles, c'est le paludisme, la filariose lymphatique. Éculex, encéphalite japonaise, fièvre du Nil occidental, filariose lymphatique. Et j'en oublie certainement encore un peu. Donc vous voyez en fait que chacun a ses prérogatives et transmet des petites choses que les autres ne transmettent pas forcément. Alors, ce que j'aimerais maintenant vous montrer, c'est qu'en fait, je vous dis ça, ok, maintenant on sait ce que c'est qu'un vecteur, on sait que les moustiques sont capables de transmettre en fait des maladies, mais comment est-ce qu'on a compris en fait que les moustiques étaient capables de transmettre? Parce que c'est pas évident en fait, on n'a pas le lien direct, on n'a pas quelqu'un qui est malade, moi je suis à côté de lui, je deviens malade. Non, il y a des gens qui sont malades, mais on ne sait pas, ça ne se transmet pas entre eux, on ne sait pas comment ça marche, d'où ça vient. Donc je voudrais vous montrer en fait deux exemples, le paludisme et la fièvre jaune, et comment on a tâtonné dans l'histoire pour essayer de comprendre en fait qui était responsable en fait de la transmission de ces maladies-là. Alors on va commencer par le paludisme. En fait, les premières descriptions de fièvre, alors le paludisme, ça donne des fièvres qui sont quelquefois très régulières. On a des fièvres tierces, des fièvres quartes. Donc ce sont des fièvres très intenses, avec une splénomégalie, donc un gonflement de la rate. Donc en fait, si on regarde, en fait, il y a 4700 ans, eh bien, dans le canon chinois de la médecine, en fait, le Neijing, eh bien, il y avait référence à des fièvres paroxystiques, donc très, très intenses, répétées, associées à une hypertrophie de la rate, à une tendance à l'épidémie. Donc voilà, on savait qu'il y avait des fièvres et qu'il y avait beaucoup de gens qui pouvaient être infectés, enfin, qui avaient ces fièvres. Et donc, c'est le fameux canon chinois. Ensuite, il y a les tablettes sumériennes, en fait. 3200 ans avant Jésus-Christ, qui, elles, décrivent toujours des fièvres très intenses. Et en fait, ils les attribuent en fait au dieu Nergal. C'est un dieu babylonien du monde souterrain qui est représenté sur les tablettes, en fait. Là, c'est le dieu représenté tel qu'il est là. Mais sur les tablettes, c'est représenté sous la forme d'un insecte qui ressemble à un moustique. Donc, il y avait déjà quelque part une connaissance, en fait, mais qui n'était pas... Enfin, voilà, on devinait quelque chose, mais on ne savait pas vraiment. Alors, en Inde, dans les livres sacrés, on sait que les fièvres, enfin on sait, on décrit que les fièvres sont associées à la colère de Shiva, qui sont personnifiées par le démon Takman, qui surgit avec l'éclair durant la saison des pluies. Donc, voilà. Et elles sont considérées comme la reine des maladies, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais enfin bon, c'est pas drôle. Mais voilà, donc là on dit saison des pluies, là la forme d'un moustique, là on reconnaît vraiment, on décrit un peu la maladie, mais on ne sait toujours pas en fait pourquoi. Et là il y a des charmes qui sont décrits dans les livres Veda sacrés de l'Inde, qui disent comment faire pour se débarrasser du démon Takman. Et il y a 500 ans avant Jésus-Christ, il y a un médecin indien qui décrivait déjà des espèces de moustiques dans la vallée de l'Indus, dont la piqûre est aussi douloureuse que celle d'un serpent, et qui donne des maladies dont les symptômes, fièvre, frisson, etc., sont exactement les mêmes que ceux d'une crise de palu. Donc en fait, lui, déjà, 500 ans avant Jésus-Christ, quelque part, il avait compris qu'il y avait une association entre ces fièvres et les moustiques. Mais là, bien sûr, il n'y avait pas d'évidence scientifique. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mener jusqu'à l'évidence scientifique. Vous allez voir qu'il a fallu du temps pour que ça puisse se faire. Alors, il y a Hippocrate. Donc Hippocrate, vous connaissez le serment d'Hippocrate, donc c'est un médecin grec très connu. En fait, il avait donc associé il avait décrit de façon très précise les fièvres, les accès de fièvre tierce, quarte, donc tous les 3 jours, tous les 4 jours ou quotidienne, qui différencie des autres fièvres et qu'il associe avec la présence des marées à une certaine période de l'année, fin de l'été, début de l'automne. Donc là, cette fois-ci, on sait que ces fièvres sont donc, en tout cas, liées à des marécages. Et là, justement, cette connaissance des fièvres et des marécages, eh bien, il y en a qui s'en sont servis pour les guerres, en fait. Et pendant les guerres, en fait, entre la Grèce et la Perse, et notamment la bataille qu'on connaît parce qu'on connaît le Marathon, la bataille de Marathon, pendant les guerres médiques, en fait, si vous observez le champ de bataille, en fait, là, c'est le camp grec, et ça, ce sont les Perses, donc ils sont arrivés, en fait, en bateau. Et en fait, ce que vont faire les Grecs, c'est qu'ils vont maintenir les Perses à proximité des marais, en fait. Et donc, les Perses, ils vont attraper des fièvres, ils vont être vraiment très, très touchés, donc ils vont être affaiblis, donc ils ne vont pas du tout gagner contre les Grecs. Et après, ils vont essayer d'envahir Athènes, et c'est là que le fameux coureur est parti vers Athènes pour essayer d'avertir. Et de toute façon, les Perses ont été vraiment très affaiblis par cette histoire de marécage et de fièvre. Eh bien, ils ont perdu la bataille, en fait. Donc, vous voyez qu'en gros, ces fièvres-là, elles ont servi pendant les guerres. C'est incroyable, hein, c'est vraiment une arme biologique, quelque part, sans vraiment en connaître l'origine exacte. Et effectivement, beaucoup de villes grecques étaient entourées de marais, et notamment, donc, grâce à ça, étaient protégées des attaques par les Perses, puisque les fièvres décimaient les armées, et jusqu'à 40% des troupes perses étaient décimées par les fièvres. Donc, c'est vraiment pas rien, en fait. Donc, il y avait déjà cette connaissance. Eh bien, quand on a un marécage, alors certes, on est forcément malade, nous aussi, hein, mais au moins, on est aussi protégé contre ceux qui nous attaquent. Alors, à Rome, il y a un autre médecin qui, lui, avait dit « Dans les marécages, il y a certains animaux minuscules, invisibles à l'œil, qui, transportés par l'air, gagnent l'intérieur du corps en passant par la bouche et le nez et causent des maladies qu'il est difficile de guérir. » Donc là, vous voyez qu'il y a quelque chose quand même du marécage avec des animaux minuscules. Donc on ne sait pas ce que c'est, on ne dit pas qu'il y a un rôle du moustique, on sait simplement que le marais est dangereux. Et là, une fois de plus, pendant les guerres puniques entre Rome et Carthage, eh bien, de nouveau, les marécages ont été très utiles aux Romains pour se défendre contre les Carthaginois, en fait, puisque la ville de Rome était entourée à l'époque par les marais qu'on appelait les marais pontins. Et ces marais pontins avaient une très mauvaise réputation, puisqu'ils étaient l'antre de légions de moustiques. dont les piqûres équivalaient à une armée d'hommes. Voilà. Donc on savait qu'avant d'entrer dans les marécages, couvrez votre visage et votre cou, car des essaims de grands insectes suceurs de sang vous attendent à l'ombre des arbres, comme des animaux attendant leur proie. Donc vous voyez en fait que vraiment ces marécages étaient vraiment très craints par les Romains et à l'origine évidemment de crises de paludisme aussi, malheureusement pour les habitants de Rome. Mais les armées des guerres puniques, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ont été décimées par les fièvres dans les marais pontins. Donc voilà, donc quelque part, Rome se protégeait, était malheureusement atteinte par le paludisme, mais était quand même protégée de l'envahissement grâce donc à ces marais. Alors, Galien, lui, poursuit donc la tradition d'Hippocrate. Il donne une interprétation beaucoup plus nuancée et sophistiquée qu'Hippocrate. Et il décrit avec précision les fièvres qui sévissent encore à Rome. Alors, ce qui est amusant, en fait, c'est qu'il prescrit la saignée comme remède. La saignée n'a jamais été utile pour une crise de paludisme. Et il y a un autre remède qui est très amusant. C'est un papyrus sur lequel il est écrit « Abracadabra ». C'est censé vous protéger, en fait. Et en fait, ne riez pas, parce que cette histoire d'abracadabra a été utilisée, en fait, jusqu'au XVIIe siècle à Londres, quand il y a eu la peste à Londres. Il y avait des gens qui écrivaient devant leur porte « abracadabra » pour se protéger, en fait. Donc, vous voyez, en fait, cette histoire d'abracadabra, elle est restée longtemps. Mais bon, c'est sûr que ça n'a pas été très utile dans aucun des cas. Alors, il y a les Romains qui prient la déesse des fièvres, Fébris, qui a trois temples à Rome. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme les Romains avaient tendance à vraiment beaucoup s'expandre, d'aller vraiment partout dans l'Europe, eh bien, c'est que les fameuses fièvres, le paludisme, est allé jusqu'au Danemark et en Écosse. Donc, c'était vraiment énorme. Alors, Rome, malheureusement, pour elle, avait donc le désavantage d'être en bordure du Tibre. Il y avait souvent des inondations. Mais les Romains adoraient faire de l'embellissement, de l'enjolivement en fait, de la ville. Et il y avait beaucoup de fontaines, il y avait beaucoup de bains, de citernes, qui faisaient que les Romains avaient au sein de Rome leurs propres élevages en fait, de moustiques. Donc c'était un piège mortel, en gros. En fait. Bon, ils étaient protégés par les marais pontins, mais dans la ville, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire se reproduire les moustiques. Alors, la découverte de la quinine, ça a été fabuleux, parce qu'on a réussi quand même à soigner en fait, ces fièvres. On ne savait pas comment on soignait, mais on savait que ça soignait les fièvres. Alors la quinine, elle a été découverte en fait, par les Indiens en Amérique du Sud, et c'est un jésuite qui, en fait... Alors, elle était connue donc depuis le XVIIe siècle. C'est un jésuite qui, en gros, en fait, a été en contact, conseillé par les Indiens, qui a su donc que l'écorce était importante et que grâce à l'écorce de quinquina, on pouvait soigner des fièvres. Donc, l'écorce a été introduite en Europe au début du XVIIe siècle et elle a été notamment utilisée à Rome. Mais il y avait en fait comme une sorte de réticence à l'utiliser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est lors de l'embellissement en fait, de Versailles, il y a eu en fait, il y avait des marais à Versailles, beaucoup de marais. Il a fallu les assécher, mais en attendant l'assèchement, il y a eu des crises de paludisme en fait, à Versailles. Et notamment, il y a le fils de Louis XIV qui a été en fait, atteint du paludisme, enfin des fièvres, parce qu'on ne savait pas que c'était paludisme, et qui a été soigné en fait, par l'écorce de quinquina. Et de là, il y a eu une publication qui a fait qu'on a vraiment dit clairement que l'écorce de quinquina pouvait soigner les fièvres. Et grâce à ça, ça a été très, très largement utilisé depuis dans tous les pays. Alors, l'association entre les fièvres et les marécages, elle est admise. La transmission, on ne sait pas si elle se fait par l'eau, en s'y baignant ou en la buvant, ou par l'air, c'est-à-dire la pestilence, le mauvais air. Et c'est ce qu'on appelait la malaria, parce que le paludisme, c'est l'eau. L'air, c'est la malaria. Ce sont deux termes qui sont encore utilisés de nos jours pour décrire la même chose. Alors, Giovanni Lanzisi, en 1717, avait associé les marécages, les moustiques, les fièvres, et il dit même que les moustiques qui inoculent leurs humeurs pestilentielles avec leur salive dans notre sang. Donc, lui, il était proche de la découverte, mais c'était encore un temps où on n'avait pas tous les moyens pour décrire de façon très sûre en fait, que les moustiques étaient porteurs. Alors, le paludisme a influé sur la Révolution américaine. Ça, vous ne savez certainement pas, mais ça a été très important. Parce que le paludisme a été introduit justement par l'esclavage en Amérique du Sud et puis en Amérique du Nord. Il y avait déjà des anopheles, en fait, en Amérique. Et le problème, c'est que donc, les Américains du Nord et du Sud étaient, bien entendu, exposés de façon fréquente aux crises de fièvre et de paludisme. Donc les Américains étaient, quelque part, acclimatés, en fait, aux crises de palud. Par contre, les colonies britanniques l'étaient beaucoup moins. Les Britanniques qui ont été envoyés en Amérique pour lutter, pour empêcher l'indépendance des États-Unis, eh bien, eux n'étaient absolument pas acclimatés. Donc, en gros, pendant les guerres, ce qui s'est passé, c'est que, bien entendu, il y a eu des luttes armées, en fait, mais il y a eu aussi des luttes qui ont été menées par les moustiques, qui ont affaibli énormément, en fait, les Anglais, qui ont fait que les Américains ont pu gagner cette révolution, parce que les troupes, en fait, anglaises ont été petit à petit décimées par ces fièvres. Donc, vous voyez qu'en fait, ça influe énormément sur les guerres, sans savoir, soit on s'en sert, soit c'est de façon indirecte parce que les batailles se passaient dans des endroits, notamment cet endroit en fait de Caroline et la baie de Chesapeake, où il y a énormément de marécages. Alors la quinine, le fait d'avoir connu l'effet de la quinine, en fait, ça fait que les Européens ont pu s'installer en Afrique et dans les colonies, en fait. Ils ont pu coloniser, puisqu'ils pouvaient se protéger, en fait, des fièvres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Britanniques ont pu coloniser l'Inde parce qu'ils consommaient, en fait, des rations de poudre de quinine sous la forme d'un liquide qu'on appelait l'Indian tonic. Et comme c'était très amer, en fait, eh bien, on a associé à cet Indian tonic du gin. Donc, le gin tonic, en gros, c'est issu de ça. C'est un mélange de gin et donc d'écorce de quinquina, à l'origine, évidemment. Depuis, ça a changé. Et enfin, donc, à la quinine, ça a été un atout majeur aussi au moment de la guerre de sécession, parce que les nordistes, ils avaient de la quinine, alors que les sudistes n'en avaient pas, parce qu'il y avait un blocus qui empêchait en fait l'entrée en fait de l'écorce de quinquina pour les sudistes. Et donc, eux, ils sont vraiment beaucoup, ils ont été beaucoup gênés, beaucoup, ils sont morts en fait de paludisme aussi. Donc, ça a beaucoup affaibli l'armée des confédérés. Alors, voilà. Donc, maintenant, on en arrive au XIXe siècle, donc c'est là que vont se faire la découverte à la fois du parasite et du moustique qui transmet. En fait, Alphonse Lavran, c'est un pasteurien, donc je suis fière parce que moi je suis pasteurienne aussi, et il a découvert en fait qu'il y avait des organismes très particuliers qui étaient présents dans le sang des patients, et il a donc mis en évidence le parasite dans toutes ses formes, dans les globules rouges du sang de patients. Et ça s'est passé donc en Algérie. En parallèle, Ronald Ross, lui, il a établi que les moustiques sont les vecteurs de la maladie. En fait, ce qui est amusant, c'est dans l'histoire de Ronald Ross. Ronald Ross, c'était un médecin britannique qui, en fait, n'était pas passionné du tout par la médecine, qui a fait médecine parce que ses parents voulaient qu'il fasse médecine et qui a passé ses examens vraiment au ras de, voilà, et qui a eu le droit seulement de pouvoir travailler dans les Indes. Uniquement, pas en Angleterre parce qu'il était un peu dangereux. Donc, en même temps, il a eu une certaine chance, c'est Ronald Ross, c'est qu'il a rencontré en fait un très grand scientifique qui s'appelait Patrick Manson, qui lui soupçonnait déjà que les moustiques transmettaient la filariose lymphatique et qui lui a dit « Écoute, mon ami, si tu veux faire quelque chose, tu vas regarder les moustiques aux Indes et tu vas voir si oui ou non tu trouves des formes de parasites dans ces moustiques. » Le problème, c'est qu'au départ, Ronald Ross, il a regardé les moustiques qui ne transmettent pas le palud. Donc, il ne trouvait rien du tout, rien du tout. Et il a fini par trouver, enfin, des moustiques qui transmettaient le palud, mais le palud, en fait, aux oiseaux. Et c'est grâce à ça qu'il a eu le prix Nobel. Mais le problème dans l'histoire, c'est qu'il y avait un Italien qui s'appelait Giovanni Frassi, qui, lui, en fait, avait découvert la transmission, cette fois-ci, du parasite humain par des moustiques. Mais lui, il a été, Giovanni Grassi, c'était Grassi, il a été totalement oublié de l'histoire, parce qu'apparemment, Ronald Ross avait plus de relations qui a fait que lui, il a eu le prix Nobel et que Gracie ne l'a pas eu. Donc voilà comment ça s'est passé. Mais bon, donc, les prix Nobel sont malheureusement attribués quelquefois un peu par hasard. Et Robert Koch a découvert, lui, la quinine, que la quinine, pardon, tuait les formes parasitaires présentes dans le sang. Donc Robert Koch, c'est celui qui a aussi beaucoup analysé en fait la tuberculose, hein, c'est le même. Hein. Et lui, il a compris que la quinine va tuer les formes parasitaires. C'est pas juste, ça lutte pas juste contre la fièvre. Ça a un effet donc sur les formes parasitaires. Donc voilà, on a regardé depuis 4700 ans chez les Chinois, on a abouti au début du XXe siècle pour dire voilà, c'est le moustique qui transmet le parasite. Vous voyez le temps que ça a mis en fait pour comprendre exactement comment ça marche une maladie vectorielle. Alors, de façon anecdotique, je regarde l'heure parce qu'il ne faut pas non plus que je dépasse. On s'est servi de la malaria-thérapie pour en fait traiter la neurosyphilis. En fait, comme les fièvres, le parasite, quand on l'injecte, ça crée une fièvre très intense jusqu'à 40-41. Et on sait que la bactérie qui est responsable en fait de la syphilis, qui est donc une spirochétose, eh bien en fait va être sensible à la température. Donc on augmente la température, on tue la bactérie et on guérit la personne de la syphilis. Donc voilà comment est-ce qu'on a pu utiliser en fait le parasite pour tuer en fait la. Alors l'utilisation du paludisme comme arme biologique, elle a été faite aussi par les Allemands en fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, et notamment en fait les marais pontins dont je vous ai parlé, ils ont été asséchés par Mussolini, qui a proposé en fait aussi aux gens d'avoir des moustiquaires et de pouvoir avoir des stocks en fait de quinine aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc les Allemands, ils ont envahi en fait l'Italie. Et ils se sont bien doutés en fait que ces marais pontins pouvaient en fait les aider à empêcher le débarquement des Alliés. Donc comme ils avaient été asséchés, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remis en eau en fait les marais pontins, et ils ont aussi malheureusement pour les gens, ils ont confisqué les stocks de quinine et les moustiquaires. C'est-à-dire que les Italiens ont été donc atteints par le paludisme de nouveau, mais c'est pareil pour les Alliés qui ont débarqué. Et surtout, c'était des souches de parasites qui étaient résistantes à la quinine, qui étaient présentes en fait dans ces régions-là. Donc vous voyez en fait que ça, c'est une arme bactériologique qui a été utilisée en fait relativement récemment. Donc le paludisme de nos jours, je vais aller rapidement pour vous dire qu'en fait c'est une maladie qui est très très grave en fait, qui atteint presque jusqu'à 40% de la population mondiale. Il y a 90% des cas graves qui sont en Afrique, avec 1 à 2 millions de morts par an. On estime qu'il y a une personne qui meurt toutes les 30 secondes du paludisme en fait en Afrique. Donc ça, c'est pour vous montrer comment le paludisme a évolué en fonction du temps. Vous voyez, en rose, c'était dans les années 1900, où il y en avait donc en Europe, un peu partout, y compris en France. Et là, c'est de nos jours, c'est la couleur la plus sombre, où il y a toujours donc des cas de paludisme. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que, bon, les symptômes, on les a vus, c'est qu'en fait, il y a eu acquisition d'une résistance naturelle, c'est-à-dire que le fait que les moustiques transportent en fait ce parasite a fait que le corps humain s'est défendu contre le parasite de façon, je dirais, par une adaptation en fait des globules rouges. Et ça s'est produit il y a très longtemps, il y a 7000 ans avant Jésus-Christ, chez le peuple bantou. Les bantous, ils sont passés de chasseurs-cueilleurs, où là, il n'y avait pas beaucoup de contact avec les anophèles, donc pas beaucoup d'infections, au stade où ils étaient, donc, ils cultivaient les terres, donc ils ont défriché. Donc là, ils ont été en contact, malheureusement, avec la maladie. Et ils se sont adaptés, en fait, à cette maladie en ayant une mutation au niveau en fait de l'hématie en fait. Et les hématies en fait qui les protègent ont cette forme de faucille. C'est ce qu'on appelle l'anémie falciforme, la drépanocytose. Donc de cette façon-là, les homozygotes en meurent. Mais les gens qui sont hétérozygotes, qui ont donc un seul gène porté par un seul chromosome, eh bien, eux résistent en fait, parce qu'ils ont à la fois des globules rouges qui sont sains et des globules rouges qui sont particuliers et qui ne sont pas infectables, en fait, par le parasite. Donc, ils sont devenus résistants, en quelque sorte, aux parasites de cette façon-là. Donc, ça veut dire qu'en fait, la présence du moustique et la présence du parasite a fait, en quelque sorte, évoluer, en fait, leur ADN et les a rendus, quelque part, résistants. Il y a d'autres types de résistance dont je ne vous parlerai pas, mais je vais les évoquer rapidement. C'est l'antigène de Fi qui est au niveau des globules rouges et qui permet aux parasites de rentrer dans le globule rouge. Eh bien, il y a des peuples qui sont de Fi négatifs et qui empêchent donc de cette façon-là aux parasites de pénétrer. Donc ça, c'est encore une acquisition d'une résistance aux parasites. Et il y a d'autres types de résistance. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a quand même un petit peu d'espoir pour le paludisme, c'est qu'il y a un nouveau vaccin qui est donc produit par GlaxoSmithKline, qui, pour les enfants, en fait, pourrait permettre justement de les protéger jusqu'à 70%. Il y a apparemment un nouveau vaccin qui protège encore mieux. Donc voilà, donc un peu mieux. Donc on va passer à la fièvre jaune. Ça va aller un petit peu plus vite, parce que c'est intervenu un peu plus tardivement, la fièvre jaune. La fièvre jaune, en fait, elle est apparue à la Barbade au XVIIe siècle. C'est un navire, en fait, avec des esclaves africains qui est arrivé à la Barbade. Et les gens de la Barbade ont observé, en fait, une nouvelle maladie qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, qui se présentait sous forme de fièvre, de frissons, de douleurs musculaires, de maux de tête violents, une atteinte du foie avec une jaunisse, et puis des hémorragies qui se produisent au niveau des muqueuses, des yeux, de la bouche, allant jusqu'à des vomissements de sang noir. On a souvent appelé, en fait, la fièvre jaune « vomito negro », donc conduisant à un coma et à la mort dans les cas les plus graves. Et donc, en l'espace de quelques années, pratiquement toutes les Caraïbes ont été atteintes. Et comme, de toute façon, les navires négriers arrivaient jusque dans tous les ports, en fait, des côtes d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, eh bien, toutes ces villes-là ont été touchées, en fait, par la maladie. Donc, à travers les Amériques, la fièvre jaune, c'est devenu vraiment un sujet de peur. Les gens avaient très peur. Ils ne savaient pas, en fait, comment se transmettait cette maladie. C'était surtout des villes portuaires, comme je vous ai montré, où il y avait beaucoup de navires de commerce, de traite des esclaves. Et c'est vraiment des épidémies qui ont été les plus mortelles de l'histoire américaine. Elle a vraiment impacté énormément sur la densité des populations d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord. Et s'il n'y avait pas eu effectivement l'arrivée de ce virus, et notamment des Aedes aegypti qui étaient en même temps, évidemment, qui transmettaient ce virus, probablement, en fait, que ces populations auraient suivi totalement un chemin différent. Alors, ce que l'on ne savait pas, c'est quelle était l'origine. C'est comme le paludisme, on ne savait pas si c'était, par exemple, une origine strictement locale. Il y a des étés trop chauds. Est-ce que c'était la météo? Parce que c'était les étés trop chauds, les orages de grêle, le passage d'une météorite, ou bien un problème d'hygiène. Est-ce que c'était ça qui causait les épidémies de fièvre jaune? Ou bien est-ce que c'était une origine tropicale? Et on soupçonnait fortement les bateaux, un peu comme dans le cas de la peste, quand les bateaux arrivaient, qu'on les mettait en quarantaine. Eh bien, malheureusement, la quarantaine ne servait à rien, parce que des moustiques en quarantaine, eux, ils connaissent pas la quarantaine. Hein. Ils sortent des bateaux et ils vont commencer à piquer les gens qui sont donc dans les ports, et la maladie se déclenche. Alors, il y a énormément de cas de contre-mesures, de remèdes qui ont été utilisés comme des fumigations. Ils ont essayé de laver les rues, faire des saignées, immerger les gens dans l'eau froide. Ça, c'était pas mal pour la fièvre, mais pour le reste, c'était pas très efficace. Ou utiliser du mercure comme purgatif. Donc, tout ça, c'était du tâtonnement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait, en fait, dans cette histoire. Alors, pour vous dire que, en fait, la fièvre jaune a joué un rôle déterminant sur le devenir de Saint-Domingue. Saint-Domingue appartenait à la France, en fait, à partir de 1697, et il y a eu à Saint-Domingue énormément de plantations. C'était un endroit très riche qui permettait vraiment d'avoir un très bon commerce avec donc l'Europe, et il y avait besoin d'esclaves pour pouvoir faire ce commerce, évidemment. Donc, en fait, il y a eu, du fait de la Révolution française, la révolte des esclaves en 1791. Alors, les Anglais se sont emparés de cette histoire parce qu'eux, ils avaient très peur de la contamination de la Révolution. Et comme ils étaient à proximité, ils étaient en Amérique du Nord, eh bien, ils sont venus sur Saint-Domingue pour essayer de s'en emparer parce que Saint-Domingue, ça les intéressait, c'était riche. Donc, ils voulaient s'emparer de Saint-Domingue. Eh bien, eux, ils ont été décimés par la fièvre jaune parce que, justement, les combats ont eu lieu dans des zones. On a les habitants de Saint-Domingue connaissaient bien le danger des marais et les combats ont été localisés dans les marais et les troupes britanniques ont été décimées. Donc, les Anglais sont repartis. Ils n'ont pas pu s'emparer de Saint-Domingue. Après, c'est Napoléon qui a essayé de solutionner cette histoire-là. Il a même envoyé en fait son beau-frère, le général Leclerc, pour essayer de reprendre Saint-Domingue. Eh bien, même chose. Et ils se sont heurtés, pareil, à la fièvre jaune, à la transmission de la fièvre jaune. Et les troupes ont été décimées et Saint-Domingue est restée donc indépendante. Et ça, en fait, cette histoire de fièvre jaune s'est allée très loin. Parce que, en fait, ça a également permis que la France rétrocède la Louisiane à l'Amérique. En effet, comme Saint-Domingue n'appartenait plus en fait à la France, c'était plus la peine de conserver en fait la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, c'est là où il y avait énormément d'épidémies de fièvre jaune, et ça nécessitait beaucoup d'envoyer beaucoup de militaires pour garder la Louisiane. Donc, Napoléon a vendu la Louisiane en fait à l'Amérique. Donc voilà. En gros, la fièvre jaune, elle a changé les choses. Alors, il y a eu une épidémie épouvantable à Philadelphie, parce que, donc, évidemment, en 1793, il y a eu la fuite des Français qui étaient à Saint-Domingue, qui fuyaient la révolte des esclaves, qui sont arrivés avec la fièvre jaune à Philadelphie, et en l'espace de quelques mois, et au moment de la saison des moustiques, il y a pratiquement 20% de la population de Philadelphie qui est morte, en fait, dans cette histoire. Donc, ça a été une catastrophe. Alors, Philadelphie, avant, c'était la capitale fédérale, en fait, des États-Unis. Eh bien, du fait, justement, de cette grosse épidémie qui a eu lieu, eh bien, on a trouvé la nouvelle capitale qui a été Washington. Bon, il se trouve que Washington n'était pas un très bon choix, parce que c'était aussi un endroit où il y avait beaucoup de marécages à l'époque. Mais bon, voilà, donc ça a changé les choses, hein, cette épidémie de Philadelphie. Donc, ça a changé la capitale des États-Unis. Alors, là, maintenant, on va savoir comment est-ce qu'on a découvert comment se transmettait la fièvre jaune. Il y a un Français, en fait, en 1822, qui a commencé à faire des expériences et qui a montré, en fait, que les gens ne se contaminent pas entre eux, en fait. Et voyez comment il a fait son travail. Il a demandé à un volontaire, qui était un chirurgien, donc de l'armée, et il lui a demandé, en fait, de dormir dans le lit d'une personne qui avait été donc malade de fièvre jaune et qui en était décédée. Voilà. Il a dormi pendant 5 jours dans le lit. Il n'a pas été contaminé. Donc on s'est dit, non, ça ne marche pas, on va aller un petit peu plus loin dans cette histoire. On va lui injecter, en fait, des exudats infectés. Donc je vous laisse deviner ce qu'on a pu lui injecter comme horreur. Il n'y a pas eu de contagion. Donc ça veut dire qu'en gros, il a démontré que la fièvre jaune ne se transmettait pas directement d'homme à homme. Ça ne marchait pas de cette façon-là. Et il a publié donc ses résultats. Après, il y a Beaupertuis, qui est un médecin né en Guadeloupe, qui lui va vraiment aller très loin. Il va jusqu'à découvrir comment se transmet. Alors, si on lit bien, en fait, il dit bien qu'en fait, la transmission se fait par l'inoculation via des insectes qu'il appelle des insectes tipulaires, c'est-à-dire c'est les moustiques. Ceci est dû au fait que les tipules, donc les moustiques, introduisent dans la peau leur suçoir. Ils instillent dans la plaie une liqueur venimeuse. Donc, voilà. Donc, il avait dit quelque chose de très intéressant. Il a publié à l'Académie des sciences en 1854. Il n'a pas publié probablement en anglais, ce qui a fait qu'en gros, les Anglais ont ignoré ce qu'il a fait. Et on a continué dans la découverte, on essaie de la compréhension de la découverte. Alors, il y a un médecin cubain à La Havane qui, lui, a fait des essais un peu scabreux. C'est-à-dire qu'il a fait gorger des moustiques sur des malades infectés de fièvre jaune. Il a pris ces petits moustiques et il les a mis sur des gens qui étaient sains, des volontaires. Et il y en a un qui est tombé malade, il a un petit quelque chose, mais pas grand-chose. Alors simplement, ça n'a pas bien marché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a repris ses moustiques très rapidement après le contact avec les personnes infectées. Et je vous ai parlé d'une période d'incubation qui est nécessaire. C'est-à-dire que si en fait, il reprend ses moustiques au bout de 4 ou 5 jours, ce n'est pas suffisant pour que le moustique soit infectieux. C'est pour ça que ça n'a pas bien marché, son histoire. Mais en gros, voilà, il avait trouvé un peu l'expérimentation qui n'était pas animale, mais une expérimentation humaine. Et donc, l'expérience n'a pas été prise au sérieux du tout. Voilà, on a dit, bof, on s'en fout un peu de ce qu'il a fait, c'est pas grave. En 1898, il y a la guerre américano-cubaine. Donc là, les Américains s'y mettent et ils veulent s'emparer de Cuba. Il y en a 2000 qui succombent à la fièvre jaune et seulement 400 sont morts dans la bataille. Donc vous voyez, donc, la fièvre jaune a gagné la bataille dans cette histoire. Et il y a un jeune médecin qui va s'inspirer des méthodes de Finlay et qui va trouver de nouveau un jeune docteur volontaire, le docteur James Carroll, qui accepte d'être piqué par les moustiques infectés. Et lui, pour le coup, il tombe gravement malade de la fièvre jaune. Mais par contre, il guérit. Donc, voilà. Problème pour... Il y a une nouvelle épidémie à Cuba. Et donc, ce fameux Jesse Lazear, lui, il va faire de nouveau ses expériences, c'est-à-dire qu'il va faire piquer... Des personnes infectées par des moustiques, et après donc il va essayer de refaire la même chose sur des volontaires, sauf que le moment où il était en train de mettre en contact les moustiques non infectés sur des malades, eh bien lui s'est rendu compte qu'il était piqué par un moustique, mais il n'osait pas bouger parce qu'il tenait un tube où il avait des moustiques dedans sur la peau d'une personne et il ne pouvait pas bouger. Donc il s'est dit, oh, piqué par un moustique, c'est rien du tout, sauf qu'en fait il est mort. En fait, il est mort quelques semaines après. Alors, Walter Reed, qui est un médecin militaire américain, qui était à la tête de la commission américaine sur la fièvre jaune, en fait, il était à Washington lorsqu'il y a eu cette histoire de la maladie de Carroll, donc dans la diapo précédente, et le décès de Jesse Lazear. Et les premières impressions n'étaient pas favorables pour lui. En fait, il s'était dit, cette histoire avec Finlay, c'est un médecin cubain, c'est pas bon, c'est ce qu'il a fait. Et il n'était pas très convaincu par cette histoire de Carroll. Mais sauf que quand il a su que Lazar était mort, eh bien là, cette fois-ci, il s'est dit, OK, il y a quelque chose là-dedans, il faut trouver en fait ce qui se passe. Et effectivement, lui, il a refait des expériences, toujours sur des volontaires qu'on voit ici, mais sauf qu'il a fait ça avec des méthodes extrêmement sérieuses, c'est-à-dire qu'en fait, il avait dans une tente, les moustiques étaient mis en contact avec des patients atteints de fièvre jaune. Dans une autre tente, il y avait des volontaires sains qui étaient mis en contact avec des couvertures souillées par les déjections de malades. Ça, c'était pour voir la contagion directe. Et dans une troisième tente, il y avait des volontaires sains qui étaient mis en contact avec des moustiques infectés. Voilà, donc super. Seuls les volontaires mis en contact avec des moustiques infectés vont tomber malades. Et donc là, il a démontré de façon très claire que c'était le moustique Aedes aegypti qui était responsable de la transmission de la fièvre jaune, donc de façon prouvée, et il l'a diffusé. Donc vous voyez combien de temps il a fallu pour qu'on puisse comprendre exactement comment se passait la transmission de la fièvre jaune. Donc heureusement, il y a un vaccin qui a été très vite trouvé en 1932 à l'Institut Pasteur de Dakar, et depuis, évidemment, on utilise très largement ce vaccin. Alors ça, pour vous montrer qu'il y a eu énormément d'épidémies, malheureusement, de fièvre jaune depuis le XVIIIe siècle. Et de nos jours, donc, ben, je pense que je vais passer aussi rapidement, simplement pour vous dire qu'il y a quand même encore beaucoup d'épidémies actuellement, surtout en Afrique et en Amérique du Sud, et que donc le moustique, quand il s'infecte, eh bien, voilà ce qui se passe. Les particules virales vont dans l'estomac, ensuite rentrent dans son estomac, sortent, vont partout. Un moustique infecté a du virus dans tous les organes, les ailes, les pattes, la tête, enfin tout. Les glandes salivaires, pouf. Et enfin, quand il va sonder, hop, il va mettre dans le derme ses particules virales. Donc plus un moustique va sonder longtemps, plus il va infecter de façon très efficace. Alors pour vous montrer que cette année, on a eu énormément de cas de dengue. La dengue, c'est une arbovirose qui est donc due à la piqûre d'Aedes albopictus. Et donc, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de... Il y a quand même une lutte antivectorielle qui est très, très développée dans le sud de la France. Mais cette lutte antivectorielle n'est pas suffisante. Il y a quand même énormément de moustiques Aedes albopictus. Et cette année, il y a eu vraiment de très nombreux cas autochtones de cette fièvre qui, normalement, donne une grosse fièvre. Hein, c'est un syndrome viral. Mais il y a quand même chaque année de plus en plus de cas autochtones. Alors, les différentes méthodes en fait, pour se protéger des moustiques, il y a les insecticides. Alors, le DDT, ça a été une découverte extraordinaire qui a été faite donc, au début à la moitié du XXe siècle. Le problème, c'est que le DDT, on a trouvé qu'il était très toxique, donc on a laissé tomber le DDT. Et le DDT, en même temps, il y a eu des moustiques qui étaient résistants. L'apparition de résistance. Donc il y a de plus en plus, même maintenant, sur les nouveaux insecticides, de résistance aux nouveaux insecticides. D'où la nécessité d'évoluer dans la façon dont on va lutter contre les insectes, contre les moustiques. Il y a une nouvelle technique qu'on appelle la technique de l'insecte stérile, c'est-à-dire qu'on va stériliser des mâles moustiques, on va les remettre dans la nature et on va essayer en fait, de diminuer la charge de la population. En fait. Ça marche bien sur les îles, ça ne marche pas très bien sur des continents. Donc, ce n'est pas encore la solution. Alors, il y a des manipulations génétiques qui se font. On essaye cette fois-ci de transmettre une bactérie aux moustiques, la bactérie Wolbachia, peut-être que vous avez entendu parler, qui en fait empêche, si c'est le mâle qui est infecté par Wolbachia, il empêche la femelle d'avoir des œufs féconds. Et si c'est la femelle qui est infectée par Wolbachia, eh bien, toute la population, toutes les générations suivantes seront infectées par Wolbachia. Et on a remarqué que Wolbachia, en fait, diminuait la possibilité aux moustiques de transmettre, en fait, un certain nombre de maladies comme les arboviroses. Donc voilà, donc ça, c'est un espoir. Et il y a aussi la dernière chose qui est paru récemment dans la littérature scientifique, ce sont des moustiques qui sont manipulés par des techniques nouvelles et on les rend résistants à la transmission. Donc eux-mêmes ne sont plus capables de transmettre. Donc tout ça fait qu'on essaye de lutter contre les moustiques, mais les moustiques, ils arrivent toujours à s'adapter. Donc en fait, il ne faut pas croire qu'on arrivera vraiment à s'en débarrasser définitivement, mais il faut être attentif et il faut donc se protéger. Et se protéger, c'est souvent d'empêcher d'avoir dans son jardin notamment des coupelles, des cache-pots avec de l'eau qui va permettre aux moustiques en définitive de se multiplier à côté de chez vous et donc vont entraîner en fait malheureusement éventuellement des épidémies comme ces dingues autochtones dans le sud de la France. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.